Matthieu chapitre 21, c'est un passage que nous connaissons tous très bien, hein. Même les gens qui ne sont pas au Seigneur connaissent ce passage. Ils ont tous entendu parler du jour où Jésus est rentré dans le temple et il a chassé les vendeurs d'animaux, les changeurs de monnaie, il les a chassés et ils nous disent, vous voyez, même Jésus, il perd le contrôle et il perd la maîtrise de soi et puis il s'est laissé aller, il s'est fâché, il s'est mis en colère, il a pris une corde ou je ne sais pas quoi et puis il a chassé tout le monde. Et on reste avec cette image-là. Mais sachez que ce n'est pas ce qui s'est passé. Hein? Vous savez, quand vous lisez la Bible, votre première réaction, en tant qu'humain, on ne peut pas, tout ce qu'on voit, on le voit avec nos propres yeux. Et vos yeux ont vu beaucoup de choses, et vous interprétez tout ce que vous voyez avec les yeux que vous avez. Hein? Et il ne faut pas faire confiance. On ne peut pas faire confiance à nos yeux. Il faut s'arrêter devant la parole et méditer et voir vraiment ce qu'il dit. Hein? Et donc, j'arrive là, je sais que vous connaissez les passages, donc là, au verset 12, par exemple, hein, Matthieu 21, verset 12, donc Jésus entre dans le temple. Si vous comparez tous les passages, tout ça, souvent on a l'impression que c'est le dimanche des rameaux, et Jésus, et puis après il est rentré directement. Mais lorsque nous lisons tous les passages de la Bible, nous voyons que c'était certainement mardi hein, que cela se passe. Hein, donc le dimanche des rameaux, le mardi, et puis le dimanche suivant, c'est bien sûr la résurrection. Donc il nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Voilà, c'est pas gentil. Mais en fait, où est le problème? La première réaction qu'on a d'habitude, c'est de dire, bien sûr, hein. Et on a l'expression en France même, les vendeurs du temple. Hein, dès qu'il y a de l'argent qui est échangé, on parle des vendeurs du temple. Mais le problème avec ce que nous pensons, c'est que c'était permis que la monnaie soit changée, c'était permis que l'on vende des animaux. Hein, regardez Deutéronome chapitre 17, verset 1. Deutéronome 17, verset 1. Et vous le savez, que quand on venait offrir des sacrifices, il fallait que ce soit des sacrifices d'animaux qui étaient sans défaut et sans tâche. Hein. Donc, Deutéronome 17, verset 1, il dit, « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait une abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Donc, la raison pour laquelle il y avait ces animaux au temple, c'était des animaux qui avaient été inspectés et on pouvait être sûr qu'ils étaient sans défaut. C'était des animaux certifiés, hein, comme on dit. Des animaux qui pouvaient être offerts en sacrifice. C'est Dieu l'a demandé, c'était là, c'était un service qu'on rendait. Regardez maintenant Deutéronome 14 et verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Donc il parle de la dîme, il parle des enfants d'Israël, qu'une fois que vous serez dans le pays que Dieu a promis, et vous serez dispersés, et puis alors pour les fêtes, vous allez venir jusqu'à Jérusalem. En fait, à l'époque, ils ne savaient pas que c'était Jérusalem, hein, c'était Shiloh au début, et après par la suite, c'était Jérusalem. Mais donc au verset 22, il dit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence et de ce que rapportera ton champ chaque année. » Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour te faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros bétail et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Donc, il leur parle de la dîme. Il a dit, là où vous êtes, vous allez faire un calcul de toutes vos récoltes, tous les animaux qui sont nés, tout ça, et vous allez calculer 1/10, hein, la dîme, et que vous apporterez à l'Éternel. Mais regardez verset 24. Il dit, peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, C'est-à-dire que tout est ta récolte, 10% de ta récolte, 1/10 des brebis qui sont nés dans ton troupeau, et tout ça. Il a dit, il se peut que ce soit trop loin à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc vous savez que les enfants d'Israël, ils allaient au loin. Il suffit de voir Pentecôte, et il y a des gens, des langues très différentes qui ne pouvaient pas se comprendre. Il y avait des gens qui venaient de partout. Ils viennent avec les monnaies de l'endroit. Hein. Ils venaient de Libye, ils venaient de Rome, ils venaient d'Inde, ils venaient de partout. Hein. Ils venaient d'Afrique, de l'Égypte, d'Alexandrie. Ils arrivaient avec les monnaies qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas venir avec les animaux. Donc ils comptaient trouver sur place les animaux. Donc il fallait changer les monnaies pour les traduire dans la monnaie du temple, hein, donc et puis ensuite il pourrait acheter des animaux qui étaient certifiés, hein, parce que s'il faisait 300 km avec une brebis, si elle était en bonne santé à la maison, elle n'était pas en bonne santé quand elle arrive. Hein, donc c'était un service. Il n'y avait rien de mauvais là-dedans. Le fait qu'il y ait il se peut qu'il y ait un petit marché à côté parallèle, il y avait peut-être du bénéfice, il y avait peut-être des trucs comme ça, ça c'est autre chose. Mais le fait que des animaux soient là, le fait qu'il y ait des changeurs de monnaie, c'était pas un problème, c'était pas là le problème. Et alors où est le problème? Parce que Jésus dira, et je reviens à Matthieu 21 verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Il dit, et en fait, c'est là où il dit, il y a le problème. Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Si vous regardez de plus près, vous voyez qu'il est en train de citer deux passages différents. Là où ma maison sera appelée une maison de prière, c'est un passage. Vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est un autre passage. On va y arriver. Mais regardez le verset 15, et c'est la beauté du verset 15. Quand Jésus avait chassé tout le monde, regardez ce qu'il dit. Mais les principaux, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. C'est curieux, ils disent des aveugles et des boiteux. Comment est-ce que les aveugles ont trouvé s'ils n'avaient pas été accompagnés? Hein, comment est-ce qu'on trouve Jésus? C'est, en général, c'est parce qu'on est accompagné jusqu'à Jésus. Jusque-là, ils n'avaient pas le droit de rentrer, on les laissait pas rentrer. Même dernièrement, dans mon culte personnel, j'ai lu comment David, il a dit, puisqu'on l'a dit, même quand il a voulu prendre Jérusalem, et on lui a dit, on lui a défié, on lui a dit, oh, même les boiteux, les aveugles de la ville te repousseront. Alors après, David, il a dit, alors les boiteux et les aveugles ne rentreront point dans cette ville. Hein, et pendant longtemps, toujours, les boiteux et les aveugles ne pouvaient pas rentrer à Jérusalem, au temple. Et là, Jésus ouvre le chemin et les boiteux et les aveugles arrivent. Et Jésus les reçoit. Hein, et il est content de les recevoir. Et il les guérit. Et même ceux qui étaient contre lui, verset 15, mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. Mais indignés par quoi ? Par les choses merveilleuses qui se faisaient. Hein, ils sont obligés de reconnaître que des choses extraordinaires, des choses merveilleuses se faisaient. Maintenant, alors, on revient encore au problème. Alors, pourquoi Jésus, pourquoi il a chassé tout le monde? Pourquoi est-ce qu'il y avait, où était le problème? Si c'était pas le commerce, où était le problème? Alors, regardez avec moi, dans Jérémie, chapitre 7, Jérémie chapitre 7, c'est là où il cite et il parle de la caverne de voleurs. Jérémie chapitre 7 et au verset 11. Mais je vais commencer un peu plus tôt. Là, c'est Jérémie qui est en train de juger les habitants de Jérusalem et il leur dit, vous allez être emportés. Hein, parce que vous êtes tellement, à cause de votre attitude, bien sûr qu'il y a le temple de Salomon qui était là, c'était une merveille, c'était et tout cela. Et eux, ils croyaient que parce qu'ils venaient régulièrement dans ce temple-là, qu'ils étaient bons. Et, et, mais Jérémie leur parle. Et je vais commencer au verset 3. Il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. » Il a dit « Réformez vos voies, changez votre manière de faire, et je ne permettrai pas à Babylone de venir vous emporter. » Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Parce que vous dites des choses, vous vous dites, mais nous, on est le peuple de Dieu, ici, c'est le temple de Dieu, Dieu ne permettra jamais que ça soit détruit, nous, on n'a rien à craindre, nous, on est très bien, on est content de nous, on a quand même, et puis si on le traduit à notre époque, mais quand même, moi, je vais à l'église tous les dimanches, et moi, j'ai la parole de Dieu, moi, je connais le Seigneur, je suis cela, et puis, moi, je suis très bien. Il dit, attendez, ne vous dites pas des bêtises. Vous dites des choses peut-être qui vous plaisent, mais vous vous dites des vérités. Ne vous trompez pas vous-même. Je relis le verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de Dieu, le temple de l'Éternel. Nous, nous sommes dans la vérité. Nous, on est les bons. Il dit, ça suffit pas. C'est pas ça qui vous protégera contre tout ce qui arrive. Il y a une attitude. D'où par la suite, Jésus va parler de lieu de prière, maison de prière. Il dit, mais au verset 5, il dit, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns les autres, et puis voilà, après il parle de deux catégories de personnes différentes. Au verset 6, il dit, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Donc apparemment, s'il en parle, c'est qu'il y avait un problème. On faisait une distinction entre les gens. Il y a un problème. Dieu était très offensé par cela. Il dit, oui, bah, c'est les gens bien, ils sont là, mais les autres, les étrangers, et les veuves et les orphelins, vous les opprimez. Il dit, si vous ne répandez pas ce lieu, le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, je vous laisserai demeurer dans ce pays. Et ensuite, je continue maintenant. Donc, il est en train de parler du problème, et j'arrive au verset 10. Il dit, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Ah, nous sommes sauvés, nous sommes très bien, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes ceci, nous avons été choisis, nous avons été élus, nous sommes des descendants d'Abraham, c'est ça qu'ils ont répondu à Jésus, même à son époque. Ils ont dit, mais nous, on a pour père Abraham, toi tu sais, on sait pas d'où tu viens, mais nous, on a pour père Abraham, on risque rien. Il dit, non, ne comptez pas là-dessus. Verset 11, elle est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom a été invoqué? Il dit, vous, en fait, à voir votre manière de vous comporter, on a le sentiment que c'est une caverne de voleurs et pas un temple. Tiens, c'est bizarre. Vous avez tout, vous imaginez, je vous laisse imaginer un petit peu, rapidement, dans votre tête, une caverne de voleurs, qu'est-ce que ça doit être? Ça doit être une vallée sombre, étroite, et puis il y a un petit chemin qui va, et puis après il y a une grotte, et puis les voleurs, ils se cachent là-dedans. Mais vous savez, dans les grottes des voleurs, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de meurtre. La caverne de voleurs, c'est l'endroit où eux, qui ont volé, qui ont tué, qui ont fait ça. Mais là, ils se retrouvent, ils sont dans la joie. C'est là où on est content, on se réjouit, et on partage nos expériences, tout ça. La caverne de voleurs, c'est l'endroit où les voleurs se rassemblent pour raconter chacun son histoire, et chacun comment il a fait, et ils sont en train de manger, ils passent du bon moment. Il a dit, mais finalement, l'église est devenue, le temple est devenu ça pour vous. C'est-à-dire, vous, toute la semaine, vous vous comportez comme des voleurs, vous détruisez, vous profitez, vous opprimez, vous faites ceci, cela. Après, vous arrivez au temple, c'est comme si les voleurs qui rentrent dans leur grotte. Et puis là, ils chantent, ils rigolent, et puis c'est les bons moments. Et après, lundi, on repart. Et je me demande si parfois, Hein, est-ce qu'on a cette mentalité dans nos églises aussi? Hein, je suis content, moi, je viens le dimanche, on chante Alléluia, oh, ça chante. Mais c'est beau tout ce qui se fait. Mais qu'est-ce que je vis? Et Dieu, il regarde et dit, qu'est-ce que tu as vécu la semaine avant et qu'est-ce que tu vis la semaine d'après? Il dit, c'est ce que tu fais pendant la semaine qui transforme le lieu de prière en un repère de voleurs. C'est comme ça que Dieu le voit. Et c'est pour ça que Jésus a réagi. Il a dit finalement, c'est pas le fait que vous avez des animaux là, c'est pas là le problème. Le problème c'est que vous, il y a des choses terribles qui se passent toute la semaine, avant, après, vous repartez à vos activités, et puis, il dit, c'est ça qui me dérange. Et vous savez, nous avons besoin, hein, c'est pour revenir à cette idée de, l'Église de Jésus-Christ a besoin d'être purifiée. Hein. On a besoin de vivre, même si on est des oiseaux rares, mais nous vivons pour le Seigneur. Et nous devons vivre des vies attachées au Seigneur. Maintenant, regardez dans Ésaïe, chapitre 56. Ésaïe 56, c'est là où il parle de la maison de prière. Et je reprends un peu cette même pensée parce qu'il y a un problème là. Regardez au verset 3. Il dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Il dit l'étranger, celui qui n'est pas issu du milieu, celui qui est extérieur, qui est nouveau, celui qui vient d'un autre arrière-plan, celui qui vient et qui n'a pas grandi dans l'Évangile et qui arrive avec tout un bagage et tout ça. Il dit, celui-là, il dit, il faut que quand il rentre dans ma maison, il faut qu'il n'ait pas l'impression qu'un jour on va le rejeter. Pourquoi? Parce que lui, il a un passé qui est vraiment pas ça. Il a été marié 36 fois. Il a fait de la prison. Il arrive avec des tatouages de toutes sortes et ça. Et puis ces gens-là, on doit déjà être préparé pour les recevoir. Si le Seigneur les reçoit, nous les recevons. Hein, et il dit l'étranger, hein, il parle de sens étranger, c'est-à-dire les gens qui sont d'un autre arrière-plan, qui sont d'une autre culture, qui sont d'un autre mode de vie. Il dit pas seulement matériellement, hein, mais c'est d'une autre éducation, hein, qui ont une autre pensée, les gens du monde d'aujourd'hui. Il dit mais il faut que eux se sentent accueillis, qu'ils soient à l'aise. Il parle des deux catégories, verset 3. Il parle d'abord de l'étranger, et ensuite, la deuxième partie, il dit que l'eunuque ne dise pas « je suis un arbre sec ». L'eunuque, c'est quelqu'un qui a subi une intervention sur le corps et qui ne peut plus avoir d'enfant. Et alors, lui, il a son sentiment de dire « mais moi, maintenant, ma vie, elle est gâchée, moi, je peux rien faire, j'aurai jamais de descendance, j'aurai pas d'enfant, mon nom, il va s'éteindre, vraiment, je suis... » Mais vous savez, et les eunuques, peut-être on n'en a pas aujourd'hui, il y en a, hein, mais c'est plus ces gens qui, il leur arrivait dans leur enfance, en grandissant, ou de sorte, qui ont été démolis intérieurement. Et je rencontre, dans mon ministère, je rencontre ces gens de partout. Les gens... Quand ils étaient petits, on leur a dit « mais tu feras rien, tu sais rien faire, tu es bon à rien, tu es raté, je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais voulu, qui voudra de toi ?» Ou bien du genre, ils ont subi des choses dans leur corps, et ils ont des marques sur eux qui montrent leur passé. Et dit et alors parce qu'ils ont été marqués par quelque chose qu'ils ne peuvent pas défaire, c'est avec eux pour le reste de leur existence. Il dit, c'est pas pour ça qu'il faut les rejeter. Il faut que eux ils aient le sentiment que dans l'église de Jésus, dans l'église, le corps, le temple de Dieu, eh bien ils ont leur place et ils vont avoir une vie fructueuse. Ce sera peut-être pas au sens physique, mais ce sera au sens spirituel. C'est des gens qui ont leur place et qui peuvent faire de grandes choses. Et de plus en plus, nous rencontrons dans les églises les nouveaux qui arrivent. Ils arrivent avec, je dis pas seulement des bagages, je dis avec un gros sac de nœuds. Hein, c'est ça que je suis en train de trouver de plus en plus. Ils arrivent avec mais toutes sortes de choses. Et on peut dire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Wow! Comment on va mettre ça dans l'église? Le Seigneur, il dit, les étrangers et les eunuques, vous les recevez quand même. Moi, je les reçois. Il dit, parce que ceux-là, regardez verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, c'est-à-dire qui garderont ses commandements, pour ne point les profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Ils ont leur place. Et il dit au verset 8, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour tout le monde. Et le mot tous les peuples, c'est pas seulement toutes les nationalités. Tous les peuples, c'est-à-dire toutes les différentes manières dont les humains se distinguent les uns des autres. Que ce soit au niveau tribal, que ce soit au niveau d'apparence, que ce soit au niveau... Toutes les manières dont les hommes se distinguent les uns des autres. Il dit, c'est pour tout, ma maison sera maison de prière pour tous les peuples. Et nous devons vraiment communiquer ce message. Et nous sommes dans une société qui parle bien, qui dit des belles choses sur tout le monde, mais dans la pratique, tout le monde souffre. Et le rejet. Dans l'Église, on ne doit pas souffrir du rejet. Et si je suis en train de... je me dis, je suis dans l'implantation d'Église, eh bien, je dois avoir déjà dans mon cœur cette attitude où, peu importe dans quel état une personne vient, eh bien, il est accueilli. Je sais avec mes années d'expérience, je sais beaucoup de choses sur beaucoup de personnes et sur ceux avec quoi ils sont venus. Et le Seigneur a fait de belles choses. Il peut faire de belles choses. C'est au point où on peut dire à n'importe lequel, on me dit, écoute, peut-être dans la société, on te dit que ta vie, elle est gâchée. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, tu as ta place et tu as une belle place. Et le Seigneur a une place pour toi dans sa maison. Il y a une maison de prière, donc une maison de communion, où on échange. Je parle et j'écoute aussi. N'oublions pas d'écouter un peu aussi. Il y en a qui parlent, et puis après, ils éteignent vite le téléphone, et Dieu ne peut pas leur parler. Mais c'est un lieu de communion. Et de plus en plus, nous devons avoir cette pensée juste. Et chacun dans l'église, parce que le pasteur, il peut avoir une bonne attitude, il peut dire, ouais, j'encourage tout le monde. Mais vous savez, il y a combien de gens qui ont reparti à cause d'une remarque de quelqu'un de l'église. Ils ont été blessés, puis ils sont partis. Et on n'a pas compris pourquoi. Il y en a quelques-uns que j'ai su pourquoi. Ils ont dit, ouais, on m'a dit ça, on m'a fait cette réflexion. C'est que toute l'église doit avoir cette même pensée. Sinon, on ne peut pas faire le travail. Si y en a quelques-uns qui travaillent dur pour rassembler, et puis il y a d'autres derrière qui cassent avec des paroles, on ne peut pas avancer. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail de tous. On a tous notre place, on est tous là, et on travaille ensemble. Et que le Seigneur nous aide, et il veut travailler, il veut le faire, c'était son désir pour Israël, c'était tant bien que mal. Il a recommencé à Pentecôte, il a redit le message, il a dit, moi c'est un message, le Saint-Esprit est descendu pour parler à tout le monde, il les a fait parler en langue, il dit, vous êtes tous inclus, peu importe d'où vous venez. Et le message est le même encore aujourd'hui. Et nous devons le répandre, et le répandre mais avec assurance, et par notre manière de vivre et notre manière de comporter. Que le Seigneur nous aide, c'est l'attitude que nous voulons ici, c'est l'attitude que nous voulons à Fréjus, c'est l'attitude que... Et ce message que j'ai porté ce soir, c'est le message que j'ai porté aux églises qui nous soutiennent aux États-Unis, ils ont besoin d'entendre aussi, et partout, et que je vais encore porter, parce que c'est un message qui est important partout. On a des beaux bâtiments, la belle chose, mais je crains que souvent dans nos églises, il y a des gens qui sont pas forcément rejetés, mais qui se sentaient un peu exclus ou qui sentent que c'est pas pour eux. Alors que Dieu veut qu'on donne un message fort. Et lui, il donne un message fort. Et Jésus, donc, pour montrer combien il désirait une maison de prière pour toutes les nations, eh ben, il a pris le risque d'être mal compris. Et il a mis de l'ordre, il a dit laissez venir les aveugles et les boiteux. Hein. Ceux que les pharisiens ne voulaient pas voir, il dit laissez-les venir. On va les transformer. Ils viennent aveugles et boiteux, on les renvoie marchant et louant Dieu, voyant clair. Et tous ces gens qui viennent à nous, aujourd'hui, avec leur bagage et tout ça, eh bien, qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils repartent transformés. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est une belle œuvre. Et on ne sera jamais au chômage avec ça. On ne peut même pas penser à la retraite. Hein. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour le privilège de pouvoir encore dire ces choses et de pouvoir les affirmer, les déclarer. Tu es un Dieu qui est merveilleux et tu es un Dieu qui reçoit et tu ne rejettes personne. Et Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, tu les reçois. Et Seigneur, peu importe dans quel état ils sont, me vient à l'esprit là, Saul qui pensait détruire tes enfants. Et tu l'as parlé, tu l'as transformé, tu as fait de lui un grand serviteur. Et combien d'autres, Seigneur, et je pourrais donner des noms ici, je ne vais pas le faire, mais des noms ici de personnes que tu as pris, tu les as tirées du marécage, et puis tu les as placées sur le rocher éternel, et tu les as lavées, comme il dit dans Zacharie, Seigneur, que tu nous transformes et tu nous rends. Et tu nous donnes un témoignage nouveau et une vie fructueuse. Si nous sommes en toi et à toi, nous ne sommes pas des arbres secs. Et Seigneur, que nous puissions vraiment être de quoi apporter de l'encouragement et du fruit à tous ceux que nous rencontrons. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.